chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Il est 8h28 dans l'actualité judiciaire. Maître Julien Bouliane, bon matin.
Bon matin.
On va revenir sur le méga procès qui va commencer au Saguenay. On parle quand même d'un jury qui a été composé hier et c'est un des rares procès quand même pour meurtre qu'on a dans la région.
Heureusement, hein? On peut se le dire ainsi. Ouais. C'est assez rare, on a très peu d'homicides dans la région, donc par la force des choses, ça fait qu'il y a très peu de procès pour ce type d'accusation-là. Mais effectivement, c'est un événement quand même qui remonte à novembre 2016, un individu là, qui aurait été tué par balle dans le secteur de Jonquière. Donc c'est le procès qui va commencer dès aujourd'hui. La sélection du jury a eu lieu hier, ça a été assez rondement. Il faut le dire qu'en cas de pandémie, là, tout ce qui est simple est compliqué. Déjà qu'une sélection de jury, normalement, c'est quand même une grosse procédure, mais ça a été assez rondement. C'est que normalement, ils sont tous, lorsque vous recevez une convocation pour être candidat juré, tout le monde se présente en même temps à 9h30. Donc, il peut y avoir 150, 250 personnes au palais de justice. Évidemment, on comprendra qu'avec les mesures sanitaires, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Ils les avaient demandé à des heures précises par groupe de 30. Donc, ils rentraient dans la salle, respectaient la distanciation sociale et suite à ça, bon, il y avait une sélection de jury qui s'est faite. Il faut dire aussi que le code criminel a été modifié. Il n'y a plus de péremptoire. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'il y avait la sélection du jury, il y a quand même les questions de base que le juge va poser pour déterminer s'ils sont aptes à être candidats jurés, s'ils ont des raisons d'être exemptés, puis s'ils sont impartiales. Mais de façon sans avoir à motiver, là, ce qu'on appelait des péremptoires, c'est que vous pouviez dire tout simplement en défense et en poursuite, non, je le prends pas. Donc, vous pouviez avoir une certaine stratégie, bien que, contrairement comme aux États-Unis, où vous avez le droit d'enquêter sur les candidats pour vraiment tenter de faire un jury qui est de votre bord, en bon français, mais vous pouviez quand même tenter d'avoir une stratégie, même si vous avez très peu d'informations, mis à part les questions posées, vous pouviez avoir une stratégie puis dire « je veux pas tel candidat, je veux pas tel candidat ». Maintenant, vous pouvez plus faire ça. Il y en a quand même ce qu'on appelle des motivés, c'est-à-dire que, exemple, un candidat se présente, pose des questions, le juge dit « bon, monsieur semble impartial », mais il dit « ouais, je suis tellement content d'être ici, j'ai toujours rêvé d'être policier puis de mettre des criminels en prison ». Oh! En défense, on pourrait dire « monsieur le juge, nous on considère qu'il devrait être exclu parce que, bon, puis là, vous êtes capable de le motiver. Vous avez quand même droit d'argumenter pour dire qu'on devrait pas retenir un jury, mais ça va quand même plus rondement qu'avant. »
Mais Maître Bouliane, vu que vous l'avez dit, on est en situation quand même particulière avec la COVID, est-ce qu'il y a des craintes que ce procès-là avorte si jamais la COVID pogne dans le jury?
Voilà. Normalement, c'est 12 jurés. Hein. Dans la très grande majorité des cas, ça va être 12 jurés. Parce qu'il faut qu'il y ait, pour le délibérer, au minimum 10 jurés. Donc, si on descend en bas de ça, il faut recommencer le procès. Et donc, il y a des dispositions dans le code criminel qui permettent qu'on puisse avoir 14 jurés. Et c'est ce qu'on a fait. Là, ils vont être 14 à entendre toute la preuve, à entendre le procès. Et là, on a installé des plexiglas partout. Normalement, c'est deux rangées de 6 là, en haut. Maintenant, on a fait 3 rangées, là, 2 rangées de 5, une rangée de 4, puis on a mis des plexiglas entre chacun, puis on a distancé les sièges. Là. Et il y a 14 jurés qui vont entendre le procès. Par contre, à la fin, quand viendra le temps du délibéré, ils vont piger deux noms. Merci d'être ici. Vous pouvez quitter parce que le délibéré, c'est 12 personnes. Minimum 10, maximum 12. Donc, à ce moment-là, effectivement, donc on a prévu le coup, là, on a un jeu de 4. On a un jeu de 4 qui pourrait être pour des raisons de santé. Bon, mettons, dans ce cas-ci de la COVID, on pourrait en perdre jusqu'à 4 et il pourrait avoir le délibéré à 10. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas un procès de très longue durée, on a quand même sélectionné 14 jurés, là, compte tenu de la possibilité de COVID.
Ouais. Faut rappeler que c'est un événement, vous l'avez dit, qui remonte à 2016. Pourquoi ça a été aussi long avant d'entamer un procès? C'est-tu la pandémie qui a retardé tout ça? Assurément, là, mais sinon, ça aurait quand même pris un certain temps.
Ben, il y a eu une période où il était en cavale, ensuite il était arrêté. Nous, c'est un individu qu'on représentait, mais compte tenu que c'est arrivé dans le centre-ville de Jonquière, il y a 24 témoins d'annoncés. Là, il y en avait plusieurs qui nous plaçaient en situation de conflit d'intérêts. Monsieur, à ce moment-là, s'est pris un avocat à l'extérieur. Il y a eu une enquête préliminaire, etc. Son avocat est tombé, donc il y avait quand même des étapes qui avançaient. Son avocat est tombé en congé maladie par la suite pendant une assez longue période. Ensuite, il y a une nouvelle avocate. Monsieur s'est trouvé une avocate de Montréal. Là. Et donc, par la suite, il y a eu des remises, manquait de la preuve, il y a eu des requêtes qui ont été entendues. Donc oui, ça a pris un certain temps, mais devant le jury, c'est toujours beaucoup plus long, il faut le dire en commençant, mais il y a eu des circonstances particulières dans ce dossier-là qui ont retardé les procédures.
Et hier, dans la sélection du jury, ce qui devait arriver, arriva aussi, il y a des gens qui se sont fait exempter parce qu'ils travaillent dans le monde de la santé. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, le juge était déjà préparé à ça.
Ah oui, puis ils ont comme ajouté, parce qu'il y a déjà une série de raisons pour lesquelles vous pouvez être exempté, là, des motifs d'exemption. Si vous travaillez ou que votre conjoint-conjointe travaille dans un domaine, exemple, si vous êtes avocat, vous ne pouvez pas être sélectionné comme juré. Si votre conjointe l'est, même chose si vous êtes dans les forces de l'ordre. Et là, il y a des questions, est-ce que vous connaissez l'une ou l'autre des parties? Est-ce que vous avez déjà été condamné pour un acte criminel, par exemple? Parce que si c'est une infraction sommaire comme une faculté affaiblie, vous n'êtes pas d'office exclu. Comme hier, c'était quelqu'un qui avait un voie de fait simple, mais l'accusation avait été portée par la procureure au dossier. Donc, on l'exclut. Et il y a les forces armées aussi qui peuvent être exclues si vous êtes âgé de plus de 75 ans. Donc, il y a déjà quand même plusieurs raisons normales pour lesquelles vous pouvez être exempté. Mais dans ce cas-ci, la COVID est venue ajouter sur le dessus des exemptions, c'est-à-dire est-ce que vous êtes essentiel à votre travail dans les circonstances. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait quand même beaucoup de compréhension pour libérer certaines personnes.
Ouais. J'ose imaginer que quand tu as un voie de fait simple et la personne qui est accusée, c'est celle qui va défendre, qui va accuser la couronne, en fait, qui est la procureure de la couronne qui accuse celui pour lequel vous êtes juré. Ouais, c'est un peu embêtant. Hein?
Ben, ça pourrait te donner peut-être le goût de moins être de son bord.
Oui, c'est ça.
Comme
là.
Ça. Donc, l'apparence de ça fait en sorte qu'évidemment, il avait été exclu. Comme moi, dans le procès Cabotin, il y avait un des candidats jurés qui, durant le cours du procès, avait eu une faculté affaiblie, puis il m'avait appelé.
Okay.
Donc, à ce moment-là, ben ça s'est su, puis le juge a dit, ben écoutez, même, on pourrait penser que c'est parce que vous le trouvez bon, vous pourrez tenter de pencher de son bord. Donc, il a été exclu compte tenu de cet événement-là.
Parlons du procès d'Éric Salvaille. Les témoignages qu'on a entendus sont spectaculaires.
Là, j'ai lu dans le journal les gros titres. Hein?
Ouais.
Le revirement dans le dossier d'Éric Salvaille, rebondissement. Puis là, je fais, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Et finalement, c'est que les déclarations ont été déposées. Plutôt que de les faire entendre, là, on a tout simplement déposé leurs déclarations qu'ils avaient faites aux policiers. Je tiens à dire aux gens, il n'y a pas de rebondissement là-dedans. On voit ça dans pratiquement tous les procès. Dans certains cas, on va déposer ni plus ni moins que la déclaration. Ça fait sauver du temps. Si on sait que de toute façon, en contre-interrogatoire, on n'irait pas chercher plus que ça. Il faut faire attention. J'entendais même des chroniqueurs judiciaires venir dire que le juge était obligé de prendre ça pour avérer parce qu'on l'avait déposé. Lorsqu'on dépose une déclaration pour valoir témoignage, on n'est pas en train d'admettre que ce qui est là-dedans est vrai. On est juste en train de dire, si cette personne-là est entendue, c'est ce qu'elle viendrait dire. OK? Pas en train de dire que c'est vrai. Elle peut toujours plaider sur la fiabilité, la crédibilité de ce qui est dit là-dedans. C'est pas parce qu'on le dépose. Autre chose, on disait, ouais, mais si on pose pas de questions en contre-interrogatoire, ça veut dire que l'avocat, il admet que c'est vrai ce qui est dit. Encore une fois, c'est tout à fait faux. Je vous donne un exemple. On est dans un procès où tous les témoins sont venus dire que c'est une bagarre entre deux personnes. Il y a personne d'autre sur place. Ils sont deux. Il arrive une témoin qui dit, oui, je les ai vus. Il y était 14 avec des bâtons de baseball puis ils sont mis à battre le petit gars. Monsieur le juge, j'ai même pas de questions, là. C'est inutile de commencer à y poser des questions. De toute évidence, c'est un témoignage qu'on va mettre de côté parce qu'il y a personne qui a vu ça, mis à part elle. Fait que, là, je donne un exemple gros pour que les gens comprennent. C'est pas parce que je pose pas de questions que je pourrais pas ensuite dire que c'est pas fiable ni crédible.
N'empêche que c'est spécial que la défense, tu sais, veuille pas au moins contre-interroger les témoins pour espérer au moins miner leur crédibilité. Je trouve ça bizarre.
On va se remettre dans le contexte de c'est quoi ces déclarations-là, ces témoignages-là. Souvenez-vous, le procès a lieu, il n'y a personne qui reproche à Éric Salvaille une agression sexuelle, une séquestration. Éric Salvaille prend la boîte en défense, commence à témoigner, et moi je vous l'avais dit, oh, faites attention, il est en train de faire une preuve de bonne réputation. Parce que, on vous l'avait expliqué, lorsque le ministère public, même s'il y avait déjà connaissance de ces déclarations-là, des personnes qui viennent dire « je ne suis pas témoin de l'événement, mais c'est son genre », ça, on ne peut pas mettre ça en preuve, ça s'appelle une preuve de propension, une preuve de mauvaise réputation. Sauf, il y a des exceptions à ça, et pour contrer une preuve de bonne réputation, c'en est une. Fait que quand Salvaille s'est mis à dire que c'est pas son genre, qu'il dépasse jamais la ligne, qu'il fait même pas ce genre de comportement ni de joke-là, moi, je me suis dit, ça va être dangereux parce qu'il va pouvoir avoir une contre-preuve potentielle pour venir dire un instant. C'est pas vrai qu'il fait jamais ça, c'est tout le contraire. Et c'est exactement ça. Mais quand le juge accepte qu'il y ait une contre-preuve là-dessus, il y a un objectif précis. Contrer la preuve de bonne réputation. Non pas pour statuer si l'infraction a eu lieu. Donc, dans ce cas-ci, on est retombé à la case neutre. Éric Salvaille s'est essayé de faire une preuve de bonne réputation. La couronne a dit un instant, nous, on veut vous faire la preuve que c'est le contraire. Le juge a accepté cette preuve-là, mais pour contrer la preuve de bonne réputation seulement, et non pas pour faire la preuve de l'infraction. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ils ont dit, ben, c'est beau, déposez-la, puis on retombe. Ils sont comme venus contrebalancer tout ça. Maintenant, le juge... Il y a une preuve de mauvaise réputation qui vient contrer la bonne réputation, mais la question à trancher, c'est de savoir s'il y a une preuve de toute des infractions reprochées et non pas de savoir s'il y a une bonne ou une mauvaise réputation.
Mais reste que les témoignages sur la réputation qu'on a entendus ou en fait qu'on a lus, c'est quelque chose.
Oui, et c'est
les
pour
détails
ça.
Sont... Ouais.
Dans toute la stratégie, moi, je me souviens, quand ce procès avait eu lieu, je vous l'avais dit en entrevue, je lui ai fait « Oh, je pense que là, ils viennent faire une grosse erreur. Quand on essaye de montrer patte blanche, là, vous avez intérêt à ce que les pattes soient blanches pour vrai. » Parce que, justement, ce genre de dossier-là, là, ça fait pire que bien. Parce que le juge, là, que vous ayez une bonne ou une mauvaise réputation, il n'a pas à trancher là-dessus. Il doit se poser la question, cette journée-là, cette infraction-là, est-ce que j'ai la preuve que vous êtes coupable hors de tout doute raisonnable? C'est tout. Que vous soyez le genre à faire des jokes, même chose, je le dis souvent, vous êtes dans un procès de voie de fait, on ne peut pas mettre en preuve que vous êtes colérique, puis c'est votre genre. Là. T'sais, je veux dire ça, c'est le juge, que ça soit ça ou non. Mais si vous venez dire, moi, je ne lève jamais le ton, jamais je ne me choque, etc., etc. Là, faites attention, parce que si on fait entendre 14 témoins qui viennent dire qu'avec le plus grand colérique, puis c'est très votre genre à prendre quelqu'un par le collet, bien là, ça va vous nuire, tu sais. Et c'est un peu ça. Il y a eu une erreur stratégique. Je pense pas que ça venait de son avocat. Peut-être qu'Éric Salvaire, dans son témoignage, a voulu trop en mettre. Puis là, ils ont dû se dire, j'espère que la couronne nous fera pas le coup de demander une contre-preuve, ce qui était le cas. Maintenant, il y a une contre-preuve, et une contre-preuve qui fait très mal, qui vient plus que contrebalancer, là. C'est plus que venir dire que ça a déjà arrivé une fois. Si on est en train de le dépeindre que c'est un comportement régulier. Maintenant, par contre, le juge ne peut pas prendre cette preuve-là pour inférer. C'est pas quand il a accepté cette preuve de mauvaise réputation, l'objectif était pour contrer la preuve de bonne réputation et non pas pour trancher le débat à savoir si l'infraction a été commise.
Non, non, effectivement. Mais l'impression que ça laisse, c'est gros pervers. Là. C'est juste...
devant jury, là. Ça fait mal. C'est un coup de 12 dans le fond du canot, puis un deuxième coup de 12 dans le fond du canot. Là.
Ouais.
Mais devant un juge seul, lui, il va dire, j'entends cette preuve-là, l'objectif que je l'ai accordé pour contrer la bonne réputation, donc voici, je ne viendrai pas dans ma décision venir dire qu'il y avait une bonne réputation, mais je ne dirai pas le contraire, je vais m'en tenir au fait. Mais devant un jury, quand eux autres, ils se parlent et qu'ils n'ont pas à motiver leur décision, ils vont venir dire, hey, c'est son genre certain, blablabla, tu sais, on comprend que devant un jury, c'est catastrophique. Heureusement, c'est un procès qui a lieu devant juge seul.
Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Salut.
Au revoir.
8h40.
Merci pour l'heure, Dom. Je suis content d'avoir l'heure.
Oui, 8h40.
Merci.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick. Saguenay.